Récit de vie de saint avec Patrick Pailleret.
Bonjour les amis, eh bien nous en étions donc restés avec ces déménagements successifs qui poussaient Don Bosco à enfin, qui l'empêchait de stabiliser son œuvre. Voilà, parce que l'opinion se soulevait régulièrement. Les plaintes devenaient nombreuses, là, auprès du maire Cavour, voilà, contre ces réunions en plein air. Là, voilà, c'était vraiment tous ces jeunes, voilà. Faut bien se mettre ça dans la tête, hein. Donc, voilà. Alors, voilà, n'ayant plus trop de lieux, ne voyant pas d'issue, devant quitter toujours les lieux où il s'installait et n'avoir pas un plan B, un lieu de repli. Hein. Voilà, notre saint Jean Bosco, qui n'était pas encore canonisé, hein, Don Bosco, hein, donc, qui dit à ces jeunes, bien écoutez, ou bien vos prières vont être écoutées et nous allons trouver un refuge stable, ou alors, bah écoutez, il va falloir nous débander, nous séparer, quoi. Hein, et voilà, aller à droite, à gauche, ouais, chacun de son côté, quoi. Et, bon, c'était la fin de l'aventure, c'était un petit peu dommage, quoi. Et alors, ils ont prié, vraiment, avec le désir fervent et la foi que ce désir allait être exaucé, ce vœu allait être exaucé. Et dans l'après-midi, avant la fin de l'après-midi même, voilà un bonhomme qui se présente là et qui va voir Don Bosco au moment où il est en prière. Et puis il lui dit « J'ai entendu dire, monsieur l'abbé, que vous cherchez un laboratoire. » Pas un laboratoire, mais j'ai besoin d'un oratoire. Oh, vous savez, pour moi, c'est un peu la même chose. Bon, en tout cas, j'ai ce qu'il vous faut. Venez voir, monsieur l'abbé, venez voir. Cet épisode du laboratoire oratoire est resté célèbre. Hein. Voilà. Et donc voilà notre Don Bosco qui suit le bonhomme comme ça hein, jusqu'à un quartier assez éloigné. Et puis voilà. Et puis alors en fait la bâtisse à louer, bah, c'était qu'un vieux hangar quoi. Fallait se courber pour rentrer parce que c'était bas de plafond. Hein. Et voilà quoi. Et alors, Monsieur Pinardi, hein, c'était le nom du monsieur Pinardi, hein, le propriétaire, ben écoute, il promet d'abaisser le sol durant la semaine. Hein, comme ça, Don Bosco pourra louer le lieu. Et voilà, donc il a tenu sa promesse, hein, il a abaissé le sol. Comme ça, il n'y avait plus besoin de se courber pour rentrer. Hein, et l'intérieur a été divisé en deux, une chapelle et une récréation, et voilà, le dimanche suivant, jour de Pâques 1846, le patronage qui s'installe dans ces nouveaux quartiers qui devaient être définitifs. Alors, un oratoire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit lieu dédié à la prière, voilà. Alors, Don Bosco, il achètera bientôt cette grange, la grange Pinardi, puis il achètera une maison de rapport, voilà, à côté. Ensuite, il bâtira, il agrandira, et à partir de là, il essaimera, voilà. Et ce sera toujours à partir de cet emplacement qu'il rayonnera, hein, à partir de ce petit coin perdu dans un quartier pauvre et délaissé du Turin d'alors, le Val d'Oco, il s'appelait, ce lieu à l'abandon. Voilà, c'était pas un monde facile. Hein. Alors, pour comprendre l'œuvre de Don Bosco, pour en saisir les difficultés, pour en apprécier, hein, à leur juste valeur, les heureux résultats, il faut se resituer dans cette Italie de 1840, avec une classe paysanne pauvre. Hein. Les enfants qui ne peuvent pas vivre longtemps à la charge de leurs parents. C'est-à-dire qu'il fallait que, ou bien, hein, les garçons aillent en ville pour y trouver un moyen de vivre, hein, ou alors qu'ils trouvent sur place de quoi participer à la vie de famille dans cette Italie qui était très pauvre quoi, hein. Voilà, et puis donc voilà, et voilà les gens, pas mal de jeunes garçons comme ça qui vont en ville là attiré par cette possibilité de gagner de l'argent, hein, comme on a vu à cette même époque, les gens prendre le bateau pour aller en Amérique en pensant trouver là la fortune et qui en trouvaient bien souvent que la misère. Donc le machinisme, hein, le machinisme l'industrie, c'était le début de l'industrialisation, hein, qui qui faisait reluire comme ça ces pièces d'un faux or, hein, et puis voilà, et puis donc ils allaient en ville, voilà, pour trouver un travail, et ils ne trouvaient que bien souvent que la pauvreté, quoi. Et puis bon, puis d'autres enfants qui auraient pu vivre à l'aise, mais qui voilà, se disaient qu'en ville, bon, ils pourraient changer de vie et tout ça. Et Turin est une ville qui grandissait très vite, hein, mais sur la pauvreté, hein, sur la misère, sur l'industrialisation capitaliste d'alors, voyez-vous. Donc voilà. Alors les éléments d'instabilité, ben oui, ben ils se multipliaient, quoi. Hein. C'est l'aurore du Risorgimento, hein, un mouvement d'indépendance là qui aboutit à l'unité de l'Italie en 1870, hein, avec la fin la sortie de la domination autrichienne et la fin des États pontificaux. Voilà, le pays était vraiment en proie à un mouvement anti-religieux, anti-catholique. Hein. Et voilà. Et alors d'un côté, le catholicisme avait vraiment perdu beaucoup de vitalité. Ce n'est pas la première fois que ça lui arrivait, et ce n'est pas la première fois aujourd'hui non plus que ça arrive. Hein. Donc il avait perdu beaucoup de vitalité. Et il faut reconnaître que les plus zélés avaient quand même un certain jansénisme. Hein, un jansénisme. Alors, si vous ne savez, comme je ne veux pas alourdir la chronique, je vous laisse chercher un petit peu de votre côté ce que c'est le jansénisme. Hein. Voilà, on ne peut communier que si on est pur et parfait et qu'on n'a absolument pas péché, ni en pensée, ni en parole, ni en action, ni par omission. C'est-à-dire que bon, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'hosties. Donc, voilà, on n'est jamais assez pur pour s'approcher de Dieu. Donc, on s'en tient loin. Voilà. Et puis, il faut quand même dire que voilà, la séparation des classes était extrêmement marquée. Hein, c'était vraiment franchir un précipice que de passer d'une classe à l'autre. En fait, c'était quasiment impossible. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Et puis, voilà. Voilà donc un nombre d'enfants considérables qui grandissaient sans abri, sans éducation, sans protection et qui vivaient comme ils pouvaient. Et donc, comme on peut, quoi. Hein. On se comprend, je pense. Hein. Donc, bien dire, parfois, peut-être quelques escroqueries, quelques rapines, quelques... faut manger, quoi. Voilà, bon. Comme ça, bon. Et voilà donc que les enfants que Don Bosco réunissait et qu'il catéchisait. Au début, le contact avec les enfants, mais il a eu affaire à une certaine résistance, mais sa patience, ça, voilà. Bon, enfin. Donc les enfants qu'il réunissait, ben, c'était pas uniquement des bons petits pauvres un peu perdus, hein. C'était le cas de certains, mais ce n'était pas le cas de tous, hein. Voilà, quand on est laissé dans cette style de vie, bon ben voilà, qui ne se voyait pas d'avenir, quoi, hein. Qui ne se voyait pas d'avenir. On disait hein, que ces enfants ne méritaient que la corde, hein, parfois qu'ils ne valaient pas la corde pour les pendre. Alors que, à l'origine, pour un certain nombre d'entre eux, ils ne faisaient que subir les avanies du temps, hein, et de l'organisation de la société d'alors. Et voilà. Et donc il y avait, il faut reconnaître quand même, quelques inconvénients assez sérieux à l'organisation ou à l'inorganisation primitive de ces réunions de notre ami Don Bosco et les enfants. Ben écoutez, ils ne couchaient pas à l'oratoire, hein, et ils n'y passaient pas leurs heures de travail, voilà. Et ils regagnaient l'oratoire à l'heure des repas et pour les récréations et les exercices religieux, et c'était le moment qu'ils partageaient avec Don Bosco. Mais leur protection, leur physique et morale, leur besoin de d'être entouré, d'être aimé, d'aimer, d'être éduqué, tout cela, voilà, et ça demandait encore plus de temps, plus d'énergie, plus de présence sur le lieu. Hein. Il leur fallait avoir le travail et le lit sur place. Hein. Et voilà, et comment on fait quand on n'a pas les ressources. Alors Don Bosco, ben écoutez, dès les premières années, il va chercher voilà, comment avoir les enfants avec lui ben dans la journée, toute la journée. Hein. Et voilà, et alors, il s'est organisé pour essayer de trouver, mais... Ça n'a pas été facile, hein. Même si Don Bosco s'est attelé dès le début. Alors, il fallait bien sûr songer à occuper utilement hein, tout ce petit monde. Hein. Donc Don Bosco, il s'occupait que de garçons. Hein, alors, hein, donc Don Bosco, il choisit les garçons qui peuvent faire des études et il les confie, ceux qui peuvent faire des études, à Monsieur Bonzanino. Il s'appelait hein, un vieux professeur qui vient les rejoindre gratuitement pour enseigner les enfants. Quoi, hein. Donc il leur donne des cours de rhétorique, de tout ça, apprendre à travailler l'italien, tout ça. Et voilà, et puis une fois qu'ils ont appris, et ben, ils reviennent. Hein, ces jeunes, ils reviennent à l'oratoire et ils enseignent eux-mêmes aux plus jeunes, voilà. Et les autres, eh bien, écoutez, les autres qui ne font pas d'études, ils ne sont pas pris pour faire des études, hein, et on leur apprend des métiers, voilà. Et voilà. Et donc à mesure du temps, dans cet oratoire, dans cette maison Pénardi, hein, ils ouvrent de nouveaux ateliers. Hein, l'oratoire s'appellera Oratoire de Saint-François de Sales, mais bon, on y reviendra. Donc au début, il s'ouvre de nouveaux ateliers, cordonnerie, taillerie, reliure, menuiserie, forge et imprimerie. Il faut se souvenir que Don Bosco, qui savait utiliser chaque opportunité qui se présentait à lui dans sa vie, eh bien, chaque fois qu'il avait dû apprendre un métier, hein, il l'avait appris, chaque fois qu'il avait la possibilité de le faire, et donc le voilà capable d'enseigner aux enfants ce qu'il a lui-même appris. Et donc, il a organisé tous ses ateliers, hein, je le redis, cordonnerie, taillerie, reliure, menuiserie, forge, imprimerie, il a organisé tout cela en 5 ans, de 1853 à 1858. Et voilà donc Don Bosco qui songe à perpétuer son œuvre et à s'assurer des collaborateurs permanents.